Voici donc comment le comte Tolstoï a terminé ce récit. Dans cette nuit du 12 au 13 août, quand, après la conversation avec son fils, il se retira seul dans sa chambre, la punition commença. « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de punition. Comme c'est bien, comme c'est rassurant. Et moi qui me suis si longtemps tourmenté en vain. Nous tous, nous luttons les uns contre les autres. Nous autres, nous entretuons pour vivre, comme dit Alexandre. La lutte pour l'existence, telle est la loi. Il n'y en a pas d'autre. Dieu m'a permis d'être vainqueur. Dieu m'a permis, oh, toujours cette habitude stupide d'invoquer Dieu. C'est pas un Dieu quelconque qui m'a permis, c'est moi qui ai su être vainqueur. Voilà la vérité. Chacun doit lutter, et le vainqueur profite de sa victoire. J'ai vaincu et j'en profite. C'est très heureux pour moi. Seulement, le remords a empoisonné ma vie. Je comprends que les autres m'envient. Chacun veut posséder, s'il veut, qu'il lutte. Lutte toi-même et n'attends pas d'aide. Par exemple, Alexandre. Il se rappela qu'aujourd'hui, Alexandre lui avait déclaré n'avoir pas assez des 20 000 roubles par an qu'il recevait de son père et qu'il lui en avait demandé 2 000 de plus. Et quand j'ai refusé, il s'est montré mécontent. Supposant qu'il compte avoir tout quand je mourrai. Et tout à coup, Trophine se dit que son fils devait désirer sa mort. Lutte pour être vainqueur. Bon, j'ai lutté, j'ai tué le marchand. Sa mort m'était nécessaire et j'ai pris sa vie. Et pour lui, pour mon fils, quelle mort est nécessaire? Il s'arrêta et se souleva sur son lit. Quelle mort, mais la mienne! Mais oui, je lui barre la route. Quelque somme que je lui donne, il ne sera satisfait que si je meurs et s'il reste maître de tout. Et Trophine, dit Alchkov, se remémora les remarques et les paroles de son fils et les sons de sa voix. Il vit que son fils désirait sa mort. Il ne peut pas ne pas la désirer. Or, s'il la désire, lui, un homme instruit, sans préjugés, alors il doit me tuer. Supposons qu'il ne veuille pas se perdre, mais il y a le poison. Et tout à coup, il se rappela une conversation qu'il avait eue avec son fils sur les poisons de jadis qui tuaient sans laisser de traces. Et s'il se procure un poison semblable, pourquoi ne me le donnerait-il pas? Il doit me le donner. Il a déjà dit que je conduis mal mes affaires et qu'on peut faire beaucoup mieux. Oui, un verre de thé, tout est fait. Acheter les domestiques, le cuisinier, ils sont tous à vendre. Et sa pensée se porta sur son valet de chambre très élégant. Il n'y a qu'à lui donner 1 000 roubles, il fera tout. Et le cuisinier aussi. Trophine, tout ému par ses réflexions, voulut boire un verre d'eau pour se calmer. Il prit le verre qui était préparé près de son lit sur la table de nuit. Au fond du verre, il remarqua quelque chose de blanc. « Qu'est-ce? Oh non, ils m'y prendront pas !» dit-il, et il se leva, jeta l'eau, s'approcha de son lavabo et but l'eau qui était là. Et la lutte de tous contre tous. Ben alors luttons, ne baillons point. Je serai plus prudent, je ne prendrai plus d'autres aliments que ceux que prendra ma femme. Oui, mais elle aussi. Elle sait qu'elle héritera d'un 7e, et ses parents pauvres la siègent depuis longtemps. Oui, à la guerre comme à la guerre, où je dois agir de telle sorte qu'il n'ait aucun avantage à ma mort. Je dois faire un testament qui les privera de tout, si bien que ma mort sera une perte pour eux. Oui, demain je ferai cela, je leur dirai. » Il aurait voulu dormir, mais ses pensées l'en empêchèrent. Il décida d'écrire son testament. Il prit sa robe de chambre et ses pantoufles, s'approcha de la table, et se mit à écrire le brouillon du testament par lequel il léguait toute sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Cela fait, il voulut se recoucher. Mais alors il songea à son valet et au portier. Il se transporta lui-même dans l'âme du valet et se demanda « Si j'étais un pauvre valet, recevant par moi 15 roubles de gage, et si séparé de moi par 5 chambres, il y avait là un Richard endormi, entouré d'argent, sachant fermement comme maintenant qu'il n'y a ni Dieu ni juge suprême, que ferais-je ? Je ferais ce que j'ai fait avec le marchand. » Et Trofim Semyonovitch fut pris de peur. Il se leva et courut verrouiller sa porte, mais le verrou ne tenait pas. Devant la porte, il roula un fauteuil et, avec des serviettes, l'attacha au loquet. Sur le fauteuil, il plaça une chaise qui devait, en tombant, faire du bruit. Ce fut seulement alors qu'il éteignit sa bougie et se coucha. Il ne s'endormit qu'au matin et dormit si tard que sa femme inquiète vint ouvrir sa porte. La chaise tomba avec un grand bruit. Trofim Semyonovitch se dressa effrayé et pâle. « Qui, quoi, l'assassin ? » cria-t-il. Il resta longtemps sans pouvoir se ressaisir. En s'éveillant, il s'était imaginé qu'on venait pour le tuer. Quand il se remit, il expliqua qu'il avait barricadé sa porte par prudence, mais il s'efforçait de cacher sa peur. Cependant, malgré ses efforts, à dater de ce jour, sa famille et ses domestiques commencèrent à remarquer en lui un grand changement. Auparavant, il était gai, il lui arrivait aussi de s'emporter. Il était bon, parfois aussi il était triste quand il pensait à son crime. Auparavant, il n'aimait pas certaines personnes, mais il en affectionnait d'autres, surtout les enfants, ses petits-enfants. Et maintenant, il était d'humeur invariable, toujours silencieux, méfiant. Tout lui était suspect, et avec tous, même avec ses enfants, il était froid. Tester était désormais son occupation principale. Pendant longtemps, il ne put faire un testament tel qu'il le désirait. Aucun des notaires appelés à cet effet ne pouvait le satisfaire. Il écrivait, recopiait, remaniait. Pour la nourriture, il était devenu aussi singulièrement exigeant. Parfois, il laissait sans y toucher les mets les meilleurs qui jadis faisaient ses délices. Souvent, il refusait de dîner ou venait au milieu du repas, prenait l'assiette de son fils, de sa fille ou de sa femme et mangeait un peu. Il achetait lui-même son vin et l'enfermait dans l'armoire de sa chambre. Il négligeait ses affaires et quand il s'en occupait, il cachait toujours aux siens ses gains et ses recettes. La fortune, l'argent qui auparavant lui donnait tant de joie, maintenant ne lui causait que du souci. Il tâchait de le mettre à l'abri de la convoitise des autres, mais il sentait bien qu'on ne peut défendre un trésor contre des hommes sans Dieu, comme il était lui-même. Il sentait que si tous savaient, comme lui et son fils, qu'il n'y a ni Dieu ni jugement, aucune préoccupation ne le garantirait, qu'on le tuerait, qu'on l'empoisonnerait, qu'on lui arracherait sa fortune par la ruse ou la force. Il n'y avait qu'un seul salut, c'était de ne pas montrer aux hommes qu'ils savaient qu'il n'y a ni Dieu ni jugement, mais au contraire leur faire croire le plus possible à l'existence de Dieu et au jugement. Aussi, autre changement, après le 12 août, Trofim se montra-t-il extraordinairement pieux, plus pieux qu'il n'avait été de toute sa vie. Il ne passait pas un seul jeûne du mercredi et du vendredi. Il ne manquait pas une seule messe. Jamais il ne laissait échapper l'occasion d'inspirer à sa famille, à ses connaissances, à ses domestiques, qu'il y a un Dieu et la loi de Dieu, que ceux qui n'observent pas cette loi périront et seront cruellement châtiés dans la vie future. Il parlait ainsi même à son fils, feignant d'avoir oublié les conversations qu'il avait eues avec lui sur ce sujet ou de s'en repentir. Depuis ce 12 août, depuis qu'il s'était convaincu qu'il n'avait rien et personne à craindre, et que maintenant rien ne l'empêcherait de vivre pour ses plaisirs n'existaient plus. Tous s'étaient transformés en souffrance. La peur de l'assassinat, de l'empoisonnement, de la tromperie, des crimes les plus horribles qui pouvaient être commis dans sa famille ou par ses familiers, ne le quittait pas. Il soupçonnait tous ceux qui l'entouraient les plus noirs desseins. Il redoutait et détestait tous les hommes et sa fille, tous. Même ses petits-fils, qu'autrefois il aimait tant, lui semblaient maintenant de petits animaux cruels. Il s'imaginait qu'on le haïssait comme lui-même haïssait les autres. Pour calmer ses angoisses, sans cesse il faisait deux choses. En premier lieu, il se cachait de tous, il trompait tout le monde, il prenait des mesures de précaution contre chacun, alors que personne ne songeait à comploter contre lui. Son autre soin était de faire l'hypocrite avec tous, de leur faire croire en Dieu, en la vertu, au jugement de Dieu. Il voyait que son salut n'était possible qu'en persuadant aux hommes ce à quoi il ne croyait plus lui-même. Sa fortune, qui croissait sans cesse, ne le réjouissait plus, mais l'effrayait. Ses parents étaient ses ennemis. Les joies simples, manger, boire, dormir, n'existaient plus pour lui. Toujours il se voyait l'objet des plus terribles complots. Le malheureux Trofim Semyonovitch vécut ainsi plus de 10 ans. Ceux qui l'approchaient étaient témoins de ses bizarreries, de ses originalités, mais personne ne soupçonnait ses souffrances. Et elles étaient grandes, surtout parce qu'il ne pouvait en attendre le soulagement, même dans la mort. Il se tourmentait, souffrait sans savoir pourquoi, et il avait peur de la mort malgré sa conviction qu'après la mort il n'y a plus rien et qu'avec la vie tout est fini. Ainsi il ne pouvait racheter sa vie, ni dans ce monde, ni dans un autre. Trofim Semyonovitch mena cette vie pendant 13 ans. Un jour, en revenant de la messe, après avoir déjeuné dans sa chambre et bu du vin, renfermé dans son armoire, il se coucha pour dormir et ne s'éveilla plus. La mort subite, inattendue, est sans doute la moins cruelle. Le riche cercueil de Trofim Semyonovitch fut conduit au cimetière de Saint-Alexandre, Nevski. Une foule d'oisifs, assidus des somptueux repas du Richard, suivit le convoi. Un prédicateur, qui à Saint-Pétersbourg jouissait alors d'une grande réputation d'éloquence, prononça l'oraison funèbre et s'étendit longuement sur la vertu, la piété et la vie heureuse du défunt. Personne, sauf Dieu, ne connaissait le crime de Trofim, ni le châtiment qu'il avait atteint depuis le jour où, de son âme, il avait chassé Dieu.